chez Pise,
l'émission qui aborde la culture de biais.
On sera sur les ondes le dernier mardi de chaque mois,
entre 19 et 20h,
sur Radio Campus 103 FM.
Installez-vous et suivez-nous après le bip sonore.
Bonjour à tous, jeunes travailleuses, dynamiques, polyvalents et motivés, et bienvenue sur Radio Campus Angers 103 FM. Si malgré le fait d'avoir traversé la rue, vous vous trouvez bien en peine d'une occupation rémunérée, n'ayez crainte, car aujourd'hui dans Pise, on va démanteler le grand monstre de notre quotidien, le travail. Enfin, on va surtout vous parler de culture et espérer que ça relâche un minimum la pression par rapport à la réforme dont on ne doit pas prononcer le nom. Pour ce faire, nous avons aujourd'hui un invité récidiviste, Baptiste. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Avec nous également, Yvelin.
Bonjour tout le monde.
Et moi-même, Zoé. Nous excusons Pierre qui n'a pas pu se joindre à nous et aujourd'hui, pour cause d'emploi du temps professionnel conflictuel, le serpent qui se mord la queue, me direz-vous. Je laisse la parole à Yvelin qui frétille déjà, je le sens, de vous parler de travail.
Il y a un mois tout juste, enfin à deux jours près, nous célébrions comme chaque année le travail. Seulement, cette année, la fête du travail ne s'est pas déroulée dans les douces effluves de muguet fraîchement cueillies par une journée printanière et ensoleillée. De soleil, nous n'en avons pas manqué pour battre une nouvelle fois le pavé. En revanche, il a été souvent difficile de respirer, tant l'air était saturé de gaz lacrymogènes un peu partout en France. Il faut dire que ce 1er mai était quelque peu spécial, comme un point d'orgue, ou plutôt un baroud d'honneur de centaines de milliers de manifestants criant leur colère contre la réforme des retraites passée à grands coups de 49-3. Sans revenir sur ces mois de mobilisation, qui ont pu réveiller quelques ardeurs militantes de ci et là, les manifestations quotidiennes et concerts de casseroles, pardon, dispositifs sonores portatifs hautement dangereux pour la démocratie, ont surtout affiché de haut grand jour notre relation complexe, ambivalente, incertaine, voire paradoxale, au travail. Le travail est un concept qui a alimenté débats et controverses depuis des milliers d'années. Pourtant, il demeure au cœur de notre société et continue à diviser, voire déchirer. Pourvoyeur de liberté et d'émancipation pour certains, tout autant que d'inégalité et de servitude, le travail demeure à l'heure actuelle un facteur identitaire. Pensez à votre dernière rencontre avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas, en soirée, à la machine à café ou tout autre lieu. Quelle question vient sur le tapis après avoir révélé votre identité, donnant votre prénom et ou votre nom ? Bonjour, enchanté, je m'appelle machin chose. Et toi, trucmuche, joli nom, c'est original. Et sinon, tu fais quoi dans la vie ? Un ami a pris conscience de cette ritournelle de sociabilité et a décidé de taire cette question, préférant interroger l'inconnu sur ses hobbies, centres d'intérêt, goûts culinaires ou tout autre élément biographique tout aussi central dans notre existence. La réaction de l'interlocuteur triste est révélatrice. Nous sommes tellement habitués à ce schéma interactionnel que nous sommes déroutés quand nous ne pouvons pas expliquer ce qui nous occupe au quotidien, à savoir notre travail. Car oui, lorsque vous précisez votre occupation salariée, vous en dites beaucoup sur vous-même. Ah, vous travaillez au conseil de gestion de Total. Pour ma part, je répertorie les espèces en voie d'extinction dans le Pacifique Sud. Pas sûr que cette discussion s'éternise. Lorsque vous évoquez votre travail, vous renvoyez souvent à un statut social particulier. Et vous pouvez même parfois laisser entendre vos convictions. Ainsi, le travail est souvent corrélé à une certaine hiérarchisation dans nos sociétés dans lesquelles il occupe une position centrale et charnière. Les exhortations à trouver du travail sont perpétuelles. Il est interdit, ou presque, de céder à l'oisiveté et de ne pas participer à l'effort économique du pays. Les réformes successives de Pôle emploi ne font que le confirmer. Conséquence, votre activité salariale n'est peut-être pas un choix, mais une obligation, une contrainte subie, car il faut bien survivre. Et encore, l'accès à un travail relève parfois déjà du privilège, car, toutes et tous, nous n'avons pas les mêmes chances d'y parvenir. Il n'est plus à prouver que l'univers professionnel est comme un miroir grossissant mettant en exergue les discriminations propres à une société. En fonction de votre patronyme, s'il sonne bien français ou non, en fonction de votre identité genrée, en fonction de votre lieu de résidence, et en fonction d'innombrables autres facteurs parfois insoupçonnés, vous n'aurez pas les mêmes chances lorsqu'un recruteur scrutera de ses yeux partiaux votre candidature. Et je ne parle même pas ici de différences de salaire et autres inégalités laborieuses. Tout cela pour dire que bien entendu le travail peut être bénéfique, émancipateur, épanouissant, libérateur, etc. J'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît et il est rare que je peste pour m'y rendre. Mais j'ai également conscience que c'est un privilège et que pour un très grand nombre, le travail est source de pression, de mal-être, d'angoisse, voire pire. Car comme le disait André Breton dans Nadia, rien ne sert d'être vivant s'il faut que l'on travaille. L'explosion des cas de burn-out semble l'indiquer. Le travail est toujours plus contraignant, toujours plus exigeant, aux dépens souvent de la santé, physique et mentale, des salariés. Et même lorsque nous avons un travail dit passion, Ce n'est pas une raison pour accepter des conditions proches de l'exploitation, sans fournir aucune reconnaissance en échange. Je me permets ici d'emprunter les mots d'Alexandre le Bienheureux dans le film éponyme « Ode à l'oisiveté », mais malheureusement sans la voix de Philippe Noiret. On a le temps, faut prendre son temps, faut prendre le temps de prendre son temps, comprends-tu ? Regarde-les, mais regarde-les donc, d'un bout du champ à l'autre ils courent. Après quoi ? Je te le demande, crevés comme moi, mais ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue, et ça n'en finit pas de durer et d'être pareil. Il y a un moment, je sais pas moi, mais je sais bien que c'est pas ça quoi. Dis donc, chien, paraît qu'on condamne des gars aux travaux forcés. Je connais ça les travaux forcés, pourtant j'ai rien fait moi. Et peut-être justement est-il possible de repenser notre relation au travail. Les possibilités sont infinies, alors pourquoi ne pas en essayer quelques-unes ? Et peut-être faut-il également revoir ce que nous associons à l'oisiveté. Elle n'est pas mère de tous les vices, et ce n'est pas Gaston Lagaffe qui me contredira. Elle est source d'une émancipation autre, non capitaliste, et encore, mais surtout non rentable, et c'est tant mieux. Alors il est temps maintenant de vous mettre à contribution, mes deux acolytes, car lorsque nous avons choisi cette thématique, la première image qui nous a sauté aux yeux était celle de Charlot dans les temps modernes, pris dans les engrenages géants d'une usine comme allégorie du travail, aliénant, déshumanisant. Mais si on creuse un peu plus profondément, avez-vous tous les deux d'autres images de ce type ou au contraire d'autres images qui répondent à celle-ci en mettant en avant l'idée d'oisiveté libératrice ?
Moi, quand je pense à Charlot, ensuite je pense au jeu vidéo Oddworld qui est sorti dans la fin des années 90, 97 je crois le premier, et qui a ensuite été remasterisé plusieurs fois, et qui consiste... en fait, ça se déroule dans un monde futuriste, dans l'espace, où une race d'aliens a été réduite presque à l'esclavage et doivent faire toutes les tâches pour de grosses entreprises capitalistes. Et ces grosses entreprises leur trouvent une dernière utilité, puisqu'ils sont transformés désormais en nourriture, en sandwich. Et un de ces esclaves va donc essayer de libérer ses compatriotes du travail forcé et essayer donc de leur sauver la vie. Il aura fallu attendre un extrême pour qu'ils se réveillent, mais... En tout cas, il essaye d'aller vers l'oisiveté, peut-être, même si c'est une dernière tâche à fournir pour y arriver.
Déjà, désolé pour l'atout. Deuxièmement, un film qui me fait penser à ce que tu dis et qui rejoint aussi cette idée de l'engrenage et des actions hyper répétitives qui te donnent l'impression que tu es en train d'être ensorcelé quand tu le regardes. Ça me fait penser au montage dans les films quand il y a le personnage est en train d'accomplir une action et il s'entraîne. Et du coup, pour s'entraîner, il y a cette espèce de montage qui montre le travail de manière hyper harassante, presque lassante. Et ça me fait penser au film Première année qui est sorti en 2018, je crois. Et pour l'anecdote, même si ça intéresse personne, c'est le premier film que je suis allée voir toute seule au cinéma. Et ça parle de deux étudiants en médecine, donc l'un qui est en train de tripler son année, ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire, parce que normalement, il n'y a pas le droit, je crois, de tripler sa première année de médecine. Et l'autre qui est rentré en médecine et qui s'en sort plutôt bien, alors qu'il n'a pas particulièrement envie d'être là, quoi. C'est un peu de la chance. Et donc, il décide de s'allier pour réussir à étudier le mieux possible, alors que normalement, dans le cadre du concours, personne ne s'allie parce qu'il y a ce côté... si tu aides quelqu'un d'autre, c'est à ton propre détriment. Et je trouve que ce travail... Enfin, tu les vois en fait réviser quand ils sont dans la douche, quand ils sont en train de manger, quand limite ils sont en train de dormir, ils sont en train de réviser leur truc. Et il y a ce truc tellement... c'est vraiment le bachotage à fond, quoi. Et je trouve ça assez terrifiant à regarder. Et ça me fait penser à Charlot, justement.
Oui, après, on a... C'est un thème assez récurrent dans les films où on va montrer justement, comme Charlot, du coup, le côté déshumanisant, mais on a aussi pas mal de personnages qui vont essayer de s'extraire de cette situation, justement, en renonçant à l'idée de travail. Baptiste, tu voudras peut-être parler après de Into the Wild de Sean Penn, mais il y a un film qui est sorti récemment, il y a 2-3 ans maintenant, Nomadland, avec Frances McDormand, qui commence par bosser dans les grands hangars Amazon. Alors, j'avais un petit reproche avec ce film, c'est qu'elle montrait le travail dans les hangars Amazon comme, pareil, lieu de solidarité entre travailleurs parce que les conditions précaires. Mais je trouve que ça aseptisait un peu les conditions terribles qu'on sait maintenant dans ces grands Amazon de cette firme. Et justement, le personnage principal décide de tourner le dos à cette réalité laborieuse et à cette déshumanisation. Et ça passe également par un retour à la nature, par justement s'évader de tout l'espace urbain pour découvrir un autre monde et faire d'autres rencontres. Et on se rend compte justement que l'oisiveté lui permet de découvrir beaucoup de choses qu'elle n'aurait pas pu découvrir si elle avait continué à travailler dans ce système américain et maintenant un peu mondial.
Voilà.
Donc oui, tout à fait, tu as parlé d'Into the Wild. Je trouve que c'est un exemple intéressant pour l'oisiveté. Parce que on voit souvent le travail est montré souvent dans les films comme un passage à l'âge adulte. On passe du statut d'adolescent, d'étudiant à l'âge adulte. Et donc Into the Wild montre un personnage qui a fini ses études et est prêt à rentrer dans la vie active. Et au dernier moment, il se rend compte que c'est trop tôt ou que c'est pas pour lui et qu'il a besoin d'autre chose. Et qu'il va fuir complètement son monde pour partir dans la nature et observer plein de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et surtout ne pas produire de nouvelles ressources. Alors le film finit pas forcément bien pour lui, mais...
Mais justement, ça c'est un autre mouvement un peu social qui se passe ces temps-ci, c'est qu'on met en avant un peu l'importance des années de césure, des gap year en anglais. Par exemple, je sais qu'il y a même des universités aux États-Unis qui offrent des bourses aux étudiants pour qu'ils prennent des années de césure, soit à la fin de leur cursus, soit au milieu de leur cursus, justement pour prendre le temps de découvrir autre chose, que ce soit du travail associatif, que ce soit du woofing ou juste découvrir une autre culture. Mais en tout cas, peut-être qu'on se rend compte que projeter trop rapidement les jeunes générations dans le monde du travail, ça va peut-être juste les dégoûter et puis les user beaucoup trop rapidement et bien avant 64 ans.
Mais je pense aussi, en termes d'oisiveté, à un film qui s'appelle Libre et assoupi, avec Baptiste Le Caplain, Charlotte Lebon et un autre acteur dont je ne me rappelle plus le nom, mais il a joué dans LOL, si jamais vous connaissez. Et en fait, j'avais découvert ce film un peu par hasard et je l'avais trouvé vraiment excellent. Baptiste Le Caplain joue le rôle justement de cet éternel adolescent, du mec qui veut pas vraiment grandir et qui fait rien de ses journées. Et un jour, il s'installe donc dans une coloc avec Charlotte Lebon et cette autre personne dont je ne me rappelle pas le nom. Et il leur montre son style de vie. Il se réveille à midi, il mange ses cornflakes et puis après, il bulle en fait toute la journée. Et en fait, on passe par... ce que je trouve intéressant, c'est qu'on passe par différentes phases où on est en empathie avec lui et on trouve qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout ça? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas tous oisifs et tout ça? Puis au bout d'un moment, en fait, son oisiveté est aussi montrée comme une forme de je m'en foutisme, de bon je suis pas vraiment ancré dans la vie, ce qui fait que ça crée des tensions aussi dans sa coloc parce que du coup les relations sont pas vraiment ancrées dans quelque chose, dans un quotidien, etc. Et je trouve qu'il est vraiment bien fait et il malgré le fait qu'il y ait beaucoup de plans où juste il fait rien, je le trouve pas lent ou triste ou mélancolique. Il a juste ce goût des longs après-midi quoi, où on aimerait bien juste ne rien faire.
Et c'est peut-être aussi un avantage du cinéma, ça c'est les films un peu contemplatifs où on offre le plaisir au spectateur pendant une bulle de 2 heures, 2 heures et demie, 1 heure et demie, de ne rien faire d'autre et de se laisser emporter par des images esthétiques et sans aucune volonté productiviste derrière.
Et cette image un peu très contemplative, ça me fait penser au film Easy Rider. Et en fait, il y a beaucoup de films qui se projettent dans les années 70 et les années un petit peu hippies où justement on essayait de quitter le travail, on essayait de vivre autre chose. Et donc le film Easy Rider, qui parle de deux compagnons de route qui vont prendre leur moto et traverser les États-Unis, qui montre vraiment beaucoup de paysages très contemplatifs et où il ne se passe pas forcément grand-chose tout le temps, mais qui montre en tout cas une autre manière de vivre.
Ouais. Mais c'est intéressant ce film parce que c'était un peu le champ du cygne justement du mouvement hippie et il a marqué toute une génération. Et intéressant aussi quand on pense que le réalisateur Dennis Hopper maintenant est devenu un vieux réac pro-armes aux États-Unis, comme quoi on peut très facilement changer son fusil d'épaule.
Mais je pense en termes de lenteur aussi, ça me fait penser à La La Land, parce qu'en fait c'est un film qui est déjà assez long, je crois qu'il dure 2h30, et il y a ce côté... c'est beaucoup trop long. Non, il est incroyable. Mais du coup, il y a ce côté très long de certains plans ou de certaines séquences dans le film. Et en fait, à partir du moment où la carrière fonctionne, à partir du moment où ils arrivent elle et lui, à entrer dans le monde professionnel qu'ils visent, c'est le moment où le film accélère, où il y a plein de trucs qui sont coupés, qu'on ne voit plus leur quotidien, où les années passent beaucoup plus rapidement. Et en fait, les moments d'entraînement, de ratage, de on n'a pas de job, du coup, on va aller faire la fête ou voir nos amis, tout ça, ça passe au second plan et c'est rattrapé par justement le travail.
Après, oui, Du coup, si on peut presque voir une dimension un peu méta par rapport au cinéma, on a souvent l'habitude de dire que le cinéma, c'est un art laborieux et un peu mécanique, parce que du coup, il y a toute une industrie derrière, et aussi même le fait de réaliser un film, ça, c'est un travail gigantesque. Et quand on repense à ce qui est considéré comme le premier film de l'histoire du cinéma, enfin par certains, c'est Sortie d'usine des Frères Lumière. Donc dès le tout premier film, on a un lien inextricable entre cinéma et travail.
Par rapport au fait de produire un film, récemment, il y a le film Babylone qui est sorti. Il y a toute une scène où il y a même plusieurs scènes qui se déroulent sur des plateaux de cinéma et on voit les différents métiers et on voit qu'ils se donnent à fond jusqu'à ce qu'il y ait un personnage qui meurt en prenant le son parce qu'il est enfermé dans une boîte où il fait beaucoup trop chaud. Et où d'autres personnages sont obligés de courir partout pour essayer de chercher une nouvelle caméra parce qu'il y en a une qui a lâché. Ils doivent essayer de tout faire pour avoir le bon plan avec le bon moment et c'est plein de petits métiers. Parfois très dur, pour essayer d'atteindre les plus hautes sphères et essayer de devenir réalisateur, producteur.
Oui, totalement insoupçonné. Je suis intervenu la semaine dernière auprès d'étudiants pour présenter des courts-métrages et une étudiante m'a posé la question, mais combien de personnes il faut pour réaliser un court-métrage de 10 minutes comme ça? Et quand je lui ai dit, faut compter au moins entre 60, 70, 80 personnes, elle a ouvert les yeux ébahis et je lui ai dit, oui, mais en fait, c'est insoupçonné en fait tous les travailleurs de l'ombre, et c'est pas que le réalisateur qui dit action est coupée, il y a beaucoup de choses derrière ça.
Ouais, quand on parle de travail de l'ombre, ça me fait penser à Miyazaki, où il y a ce côté... En fait, le travail est vu comme une manière de participer à l'équilibre d'un système, où on parlait du château ambulant avant, ou de Kiki la petite sorcière, ou même dans...
Chihiro.
Oui, c'est ça. Où elle est obligée de travailler et où il y a cette vision du travail comme t'es obligé de le faire, mais ça peut rester quand même quelque chose d'un peu esthétique ou d'un peu oisif quand même. Et souvent, dans ces films-là, ils incarnent pas du tout des grands directeurs, des grands... C'est des tout petits travails de boulanger, de serveuse, de technicienne. Fin...
Mais comme tu dis, qui sont épanouissants et qui sont aussi source de relations sociales. Par exemple, Kiki la petite sorcière, elle débarque dans sa ville, elle vient de la campagne, personne ne l'accepte, tout le monde la regarde bizarrement. En même temps, quand vous débarquez sur un balai volant, oui, on vous regarde bizarrement. Mais c'est bien par le travail qu'elle fait, c'est un travail gratifiant en fait, et qui passe pas uniquement aussi par un aspect monétaire. Elle n'est pas récompensée par de l'argent, elle est récompensée par un toit, par une relation amicale avec la boulangère, puis par des nouvelles relations amicales avec toutes les personnes à qui elle va livrer. Donc c'est une autre manière de penser le travail. Et je pense d'ailleurs qu'à force, on devrait être aussi sponsorisé par Ghibli, vu qu'on les mentionne chaque mois. Voilà.
Il va falloir faire un peu de pub aussi. Parce que...
Exactement. Et pour rester un peu dans cet univers un peu Miyazaki, et puis on a ouvert cette discussion avec un jeu vidéo, moi je pense aux deux derniers opus de la saga Zelda. En fait, alors déjà les jeux vidéo, qui n'a pas entendu, mais qu'est-ce que tu fais de ta journée? Tu passes ta journée à jouer aux jeux vidéo, tu ne fais rien. Non, on ne fait pas rien. Mais les deux derniers Zelda sont justement une invitation à l'oisiveté et à la déambulation. Si on ne veut pas s'occuper de la quête principale du jeu, on s'en fiche, on peut juste errer dans ce décor un peu à la Miyazaki, dans ce décor, mais d'une beauté fascinante, et s'évader aussi, et juste ne rien faire.
Tout à l'heure, tu as parlé de Kiki la petite sorcière.
Ouais.
Et je veux juste en profiter pour parler d'un jeu qui sort bientôt, normalement, sur toutes vos plateformes préférées, et qui s'appelle Mika et la montagne de la sorcière. Et qui, en fait, on joue une apprentie sorcière qui tombe du haut de sa montagne et qui doit donc améliorer son balai pour pouvoir remonter tout en haut. Et pour ce faire, elle doit accomplir des tâches, et notamment donc délivrer des courriers et des colis à tous les habitants de l'île. Okay. Et c'est un jeu qui est très contemplatif, très mignon.
Mais du coup, c'est directement inspiré de l'œuvre de Miyazaki?
Alors, je pense qu'il y a une forte inspiration. Après, au niveau des graphismes et tout ça, il n'y a pas de point commun, mais je pense que la sorcière qui distribue du courrier est fortement inspirée.
Je vous propose de passer à la première chanson qu'on va écouter, qui est Clémence en vacances d'Anne Sylvestre. C'est une chanson que j'ai découverte et que Baptiste a découvert aussi lors de la séance d'ouverture du mois du genre, quand la chorale des Louis Saint-Michel est venue chanter Clémence en vacances. Et je la connaissais pas du tout. Elle est ultra entraînante et je l'adore parce que je pense que je connais Enfin, Anne Sylvestre a cette capacité à parler de l'histoire des femmes en chanson et de trucs où je me dis « Ah, mais on n'arrêtait pas de parler des hommes quand on parlait d'oisiveté et de machin. » Et elle le fait avec une ironie mordante et en même temps hyper entraînante. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Baptiste, sur Clémence en vacances ?
Eh bien, juste ça permet de parler du fait qu'effectivement, quand on pense au travail, on pense directement au métier. Au final, il y a plein d'autres tâches qui sont aussi du travail, et notamment les tâches ménagères et recoudre des boutons et faire la vaisselle, faire le ménage, qui, bien souvent, dans les contes et les histoires qu'on nous raconte, sont l'apanage des femmes. Et donc, c'est intéressant d'avoir Anne Sylvestre qui remet ça en question.
On l'a dit à la grand-mère, qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école, à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, doit tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment on enfonce? Clémence va bien. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences, comment on enfonce? Elles seraient bien. Toutes les Clémences prendraient des elle ne ferait plus rien. Toutes les Clémences, comment on enfonce, se reposeraient enfin.
Aujourd'hui, je veux vous parler d'un roman qui n'avait rien pour me plaire. C'est de la science-fiction, et même si j'apprécie une touche de magie dans mes lectures, j'aime l'idée d'une réalité que je connais. C'est court, 150 pages à peu près, ce qui peut souvent me laisser sur ma faim. Et c'est un conte philosophique, un genre qui m'horripile puisqu'il peut facilement tomber dans le moralisme, la simplicité ou les métaphores dessinées à gros traits, pour être sûr que le lectoris ait bien compris qu'on parlait du sens de la vie en fait. Mais ici, que nenni. Déjà, le titre pétille en bouche, un psaume pour les recyclés sauvages. Toutes les caractéristiques que j'aborde habituellement sont celles qui me font aujourd'hui dire qu'il entre dans mon palmarès de lecture. On suit Dex, moine dans un univers post-apocalyptique. Après un moment décisif de l'histoire, l'humanité a dû réinventer ses pratiques de vie. Notamment parce que les robots ont décidé d'affirmer leur autonomie et ont quitté tous les postes de travail qui leur avaient été assignés. Ils sont partis vivre dans la montagne et n'ont pas gardé contact avec les humains. Dex, donc, est moine et s'occupe des jardins. Jusqu'au jour où cette mission ne lui convient plus et Yel s'engage à devenir moine de thé. Yel passe de village en village pour prendre le temps d'écouter les habitants et habitantes et leur préparer un thé qui sied à leurs envies. Yel est douée dans ce qu'elle fait, mais pourtant un manque l'habite. Dex part dans une quête dont Yel ne connaît pas lui-même l'objectif. Un soir, alors que Dex campe dans la forêt, un robot surgit des buissons avec cette question. De quoi les humains ont-ils besoin ? Déjà, si vous n'êtes pas habitué à l'entendre quand on parle de littérature, Dex, le hamoine, ne définit pas son genre, et c'est abordé en une ligne à un moment assez insignifiant de l'intrigue. Rien que ça, c'était une petite révolution pour mes synapses, qui, bien qu'habituées à militer pour l'usage d'un langage inclusif, manquaient de représentation. Ce qui me fait dire que 1. C'est vraiment pas difficile de l'utiliser, 2. On l'oublie complètement au bout de 2 pages. C'est un détail, mais je pense que c'est une des raisons qui explique mon manque d'intérêt actuel pour la littérature. Un goût de vue et revue, un manque de fraîcheur et de créativité, un besoin de nouveaux récits surtout. La science-fiction permet ce décalage. Explorer la nouveauté dans un cadre qui, parce qu'inconnu, permet d'outrepasser les obstacles habituels. Et l'univers imaginé par Becky Chambers est incroyable. Je n'ai pas encore lu le 2e tome, mais j'ai autant hâte de retrouver les personnages que de découvrir comment l'autrice a fait fonctionner ce monde qu'on peut qualifier d'écoféministe par son caractère utopique et révolutionnaire. Un grand soin est apporté à la description des végétaux, à la prise en compte des questionnements sur le retour à la simplicité et l'usage des nouvelles technologies, à ce qui fait ou non histoire pour une civilisation. On apprend tout ça au fil des discussions entre Dex et Omphale, le robot qui accompagne Dex dans son cheminement. Leur questionnement existentiel ne semble pas mis en scène pour déboucher sur le truc que l'autrice voulait dire avec son bouquin. Ça donne plus l'impression d'être une passagère de leur aventure et de pouvoir tendre l'oreille. C'est ce sentiment de me promener dans le livre qui me fait dire qu'on est sur une lecture feel good. Et forcément, ça parle de travail, parce que comme souvent dans les fables philosophiques, on se demande quelle est notre mission, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps et ces ressources à notre disposition. Omphale et Dex ont deux manières très